Instant X.
You're a witch!
He's a witch too, you know.
You're a wizard, Harry.
Halloween, c'était hier, ou presque.
Ou presque.
Presque environ. Et même si les rayons des magasins ont déjà revêtu leur blanc manteau, dans mon cœur, il est encore bien temps de parler d'un trio de sorcières cultes, les sœurs Sanderson des films Disney Hocus Pocus et Hocus Pocus 2. Hocus Pocus premier du nom est sorti en 1993. C'était hier aussi. Et a fait un véritable flop au cinéma. Là n'est pas mon propos aujourd'hui, je laisserai le soin aux spécialistes de dire tout le bien ou le mal qu'ils pensent de ce presque nanar, qui est devenu culte à force de diffusion à la télévision tous les ans pour Halloween aux États-Unis et grâce à l'âge d'or de la cassette vidéo en France. Hocus Pocus donc, sorti en 93, réalisé par Kenny Ortega, un résident des studios Disney qu'on a retrouvé plus tard sur des High School Musical, sur des, comment elle s'appelle, avec Miley Cyrus, Hannah Montana, des choses comme ça. Donc le mec habite dans les studios et est très fort en comédie musicale. Et on retrouve dans ce film au casting pour la première fois sous les traits des trois sorcières, les grandes Bette Midler, Sarah Jessica Parker avant qu'elle n'emménage à New York avec ses copines de Sex and the City et Kathy Najimy que j'aime énormément pour son rôle de sœur Mary Patrick dans les Sister Act de Whoopi Goldberg. Je sais pas si vous voyez laquelle c'est.
Ben c'est,
on l'adore. Sœur Mary Patrick, on l'adore. Ouais. Elle est très très drôle et tout, elle est adorable. Petit synopsis du film, donc 1693 à Salem, la petite sœur de Thackeray Binks se fait enlever par les sœurs Sanderson. Trois sorcières, il y a Winifred, Sarah et Marie. Binks affronte alors les sorcières pour récupérer sa petite sœur, mais elles réussissent à voler la force vitale de cette dernière pour avoir la jeunesse éternelle. Après cela, elle transforme Binks en un chat condamné à vivre à tout jamais hanté par son échec, puisqu'il n'a pas pu sauver sa sœur. Et les sorcières se font arrêter par les habitants de Salem pour être pendues, sans procès bien évidemment pour sorcellerie. À ce moment-là, Winifred, c'est Bette Midler, maudit la ville de Salem et ses habitants, prophétisant leur retour sur Terre grâce à un être pur et vierge le jour d'Halloween. Mais on ne sait pas quand. 300 ans plus tard, en 1993, Max Dennison, un adolescent qui a déménagé à Salem avec sa famille et ne croit pas aux sorcières et aux fantômes. Par contre, il est un petit peu amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Allison et qui, elle, y croit à fond. Le soir d'Halloween, il se voit obligé d'accompagner sa jeune sœur Dani pour la tournée de bonbons. Les trois, Max, Dani et Allison, se retrouvent ainsi dans la vieille maison des trois sœurs. Bien sûr, Max, parce qu'il n'y croit pas, il allume la bougie à flamme noire et les trois sorcières reviennent à la vie. Je ne raconterai pas le film en entier, mais bon, voilà, on s'imagine ce qui va se passer. Donc, Hocus Pocus n'est pas un film d'épouvante, mais c'est une comédie pour enfants au relent fantastique. Et bien sûr, dans ce premier volet, les sorcières sont méchantes. Elles sont stupides, elles sont vilaines. On les affuble de caractéristiques physiques considérées comme moches, histoire d'appuyer sur le fait qu'elles sont méchantes. Elles ont les dents en avant, elles ont des poireaux sur le menton, elles sont grosses. Parce qu'on le sait bien, dans le monde de Disney des années 90, être gros ou être moche, c'est être méchant. On ira pour ça voir La Dame de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles, encore Ursula dans La Petite Sirène.
Et longtemps, chez Spielberg, ça signifiait aussi que vous alliez mourir parmi les premiers.
Voilà, hein, c'est terrible. Hein, c'est, être gros, vraiment, c'est pas facile hein, dans ce monde-là. Même dans le vrai monde, d'ailleurs. Les sœurs Sanderson sont aussi avides de pouvoir et en quête de la jeunesse éternelle. Et c'est pourquoi elles kidnappent des enfants pour absorber leur énergie vitale avec leur pouvoir magique. Pouvoir magique qu'elles auraient obtenu en vendant leur âme au diable, évidemment. Heureusement, spoiler, les gentils gagnent à la fin parce que c'est un film Disney et les sorcières retournent dans l'au-delà grâce à une bande de gamins espiègles, donc Max, Allison et la petite Dani, qui parviennent à déjouer le plan des sorcières alors que les adultes de la ville qui les entourent ne captent rien à ce qui se passe et sont plutôt en train de se la coller habillés en Madonna et mes autres Michael Jackson à la soirée d'Halloween organisée par le maire de la ville.
Ah oui, alors donc ce sont vraiment les méchantes dans ce film-là.
Elles sont très très vilaines.
Ce sont
les
gamins dont vous parlez qui sont les héros.
C'est eux les gentils, vraiment, qui luttent contre les sorcières. On n'a pas envie de les soutenir, les sorcières, dans ce film-là. Et donc, heureusement que les enfants sont là pour résoudre les problèmes dans le monde de Disney, parce que s'il fallait compter sur les adultes, on ne serait pas rendu. Moi, j'ai redécouvert Hocus Pocus récemment en le faisant regarder à mon fils. Je me souvenais pas grand-chose du film. J'avais dû peut-être le regarder un mercredi après-midi ou un samedi soir chez une copine. Et effectivement, je l'ai pas trouvé dingue. Hein, c'est une comédie Disney pour enfants des années 90. Mais comme elle avait jamais fait partie de mon panthéon, j'avais pas l'effet nostalgie suffisant pour dire à mon fils toutes les deux secondes « Attends, tu vas voir, c'est là où ça va être génial !» ou connaître les lignes de dialogue par cœur. Alors, même si j'ai pas trouvé le film exceptionnel, je veux bien lui reconnaître quelques bons gags. En effet, on fait revenir les sorcières dans le présent des années 90, donc 300 ans dans le futur pour elles. Et donc, elle découvre la technologie et on a droit à une scène où elle vole sur un aspirateur au lieu de voler sur un balai, par exemple. Donc, c'est un petit peu rigolo. On aime bien quand même le petit côté comédie musicale qui était très fort dans les Disney d'antan, puisque dans le film, on a une très belle interprétation de la chanson « I put a spell on you » par les trois sorcières, en version remixée pour le film avec des paroles changées, en fait.
Bon, et puis, il faut dire aussi que Bette Midler est une grande...
Oui. Et ben, tout comme la femme qui jouait dans les Sister Act, là, je vous disais, qui chante aussi énormément dans ces films-là. Et on a aussi droit à une petite choré à la Thriller par tous les habitants de Salem qui déambulent déguisés en zombies dans les rues de la ville, envoûtés par la chanson des trois sorcières. Alors le personnage principal du gamin, moi, il m'a pas du tout, voilà, il m'a presque même insupporté. Alors que normalement c'est le petit nouveau qui vient de Californie, on a un peu envie d'éprouver de la sympathie pour lui, quoi, mais non, pas vraiment. Et la petite sœur qui est la caution mignonnerie du film, elle était plus pénible qu'autre chose, elle est un peu casse-pied. Le seul personnage qui m'a un peu ému, c'est le personnage du chat maudit, mais c'est juste parce qu'il meurt à la fin et que tuer un animal dans un film, moi, ça me brise le cœur. Voilà. Quelques mois plus tard, alors que mon fils reçoit des copines lors du soirée pyjama et qu'on est à l'approche d'Halloween, je me dis tiens, éduque la jeunesse, fais-leur regarder Hocus Pocus, Tata Sorcière, hein, même si c'est blindé de clichés, au moins ça pourra ouvrir une discussion avec les jeunes sur l'image de la sorcière à travers les âges, etc. Puis ils sont bien plus dans la cible que moi, du coup ils ont adoré le premier film et Disney Plus étant bien fait, nous a proposé de regarder directement la suite, le Hocus Pocus 2 qui venait de sortir cet automne-là. Donc les gamins me disent « Ah oui !» Donc moi, je suis faible hein, et en même temps curieuse, donc j'appuie sur la télécommande et je lance le film. Et là, dis donc, c'était presque une bonne surprise.
Oui.
Et oui, dans Hocus Pocus, comme dans le premier volet, on commence quand même l'histoire à Salem. On est en 1653, donc c'est pour les 16 ans de Winifred. Donc c'est la sœur Elizabeth Midler, donc on les voit enfants. On voit qu'elles sont orphelines, elles vivent seules, sans supervision d'un adulte. Et Winnie apprend, en revenant du marché, qu'elle va être mariée de force à John Pritchett, un gamin du village, sur décision du révérend Trask, qui est le saint patron du village, hein, puisque c'est le révérend. Mais elle refuse tout net, elle préfère sa liberté et ses sœurs au joug d'un mari qu'elle n'aime pas. Fâché tout rouge par cet affront, le révérend bannit Winifred de Salem. Et plutôt que de laisser ses sœurs derrière elle, alors que le révérend avait gentiment décidé de les adopter, je mets plein de guillemets, les trois sœurs s'enfuient en direction de la forêt maudite. C'est là, on l'apprend, que Winifred reçoit son grimoire. C'est un grimoire en espèce de cuir avec un énorme œil au milieu, un œil humain qui bouge et qui cligne, qu'on voit beaucoup dans le premier. Et là, on le retrouve dans le second. Et elle reçoit ce grimoire des mains d'une sorcière dont on ignore le nom. C'est pas trop d'où elle vient, mais elle est là et elle leur donne ce grimoire. Et elle les met en garde contre un des sorts qui est dans le grimoire, qui s'appelle le sort de Magica Maxima. C'est un sort qui est censé donner à la sorcière qui le lance la toute puissance, et elle leur dit bien de ne surtout pas tenter de le réaliser. On quitte les sœurs sur ces entrefaites, alors que grâce au grimoire, elles sont en train de bâtir le cottage qui va les abriter toute leur vie, jusqu'à la première mort qui a lieu dans le premier film. On part ensuite en 2022, où là, on suit...
Petite question, les trois avaient re-signé hein, pour le deuxième.
Oui, c'est toujours le même casting, on a toujours les trois originels.
Ok.
Donc nous voilà repartis en 2022 où on suit deux adolescentes, Becca et Izzy. Elles sont membres d'un trio de copines inséparables depuis l'enfance, mais elles ne sont plus que deux à la veille d'Halloween parce que la troisième, Cassie Trask, comme le révérend, a un petit copain depuis quelques mois, le capitaine de l'équipe de foot du lycée qui est parfaitement imbécile et elle est devenue un peu trop cool pour ses BFF qui sont quand même un peu étranges et que les autres ados qualifient un peu de freaks. Depuis toujours, elles avaient l'habitude de célébrer Halloween ensemble en pratiquant un rituel de sorcellerie qui ne marchait jamais. Mais cette année, du coup, Becca et Izzy se retrouvent à le faire sans Cassie. Elles vont donc dans leur magasin de magie, alors magie, sorcellerie et prestidigitation préférée, qui est tenu par un personnage qui s'appelle Gilbert et qui est de manière très, très, très intéressante dans l'ancien cottage, dans l'ancienne maison des sœurs Sanderson, le hasard comme par hasard, vraiment. Gilbert leur donne une belle bougie pour réaliser leur rituel d'Halloween en cadeau, parce que c'est sympa. Ce qu'on apprendra plus tard, c'est que ce fief et coquin a volontairement fabriqué une bougie à flamme noire, une bougie qui, une fois allumée par nos deux amies qui sont vierges évidemment, le soir d'Halloween va faire de nouveau revenir les sœurs Sanderson.
Mais ça mouftait pas chez vous, j'imagine, hein.
Ah mais on était tous à fond dedans, c'était fou, on était là, on se disait « Ah mais mon Dieu !» Alors après leur deuxième retour, les sœurs n'ont qu'un seul objectif, réaliser le sort de Magica Maxima qu'on leur a interdit de réaliser depuis toujours, pour se venger une bonne fois pour toutes des habitants de Salem qui les ont bannis, pendus, fait revivre puis retués dans les années 90, tandis que de leur côté, les ados vont tout faire pour les en empêcher. Je ne vais pas spoiler, mais vous vous doutez bien que, comme dans tout bon Disney, tout est bien qui finit bien. Cependant, cet opus a le mérite d'être un petit peu plus nuancé, là où son frère aîné était vraiment un gros balourd. On a toujours les mêmes gags à base de sorcières face à la modernité. Là, cette fois, elles ne volent plus sur des aspirateurs à sac, mais sur des Roomba. Mm-hmm. Voilà, donc c'est petit robot, c'est drôle. Elles découvrent les smartphones, elles font des selfies avec des petites jeunes filles qui sont déguisées en elles-mêmes parce qu'elles les trouvent cultes et c'est formidable. Donc, il y a une espèce de petit jeu comme ça, un peu méta, qui peut être perçu.
Et à propos de méta, est-ce que le jeu de Sarah Jessica Parker, où il y a des références, en tout cas, à la série qui l'a rendue mondialement célèbre.
J'ai pas trouvé.
Le personnage qui est confondu, on peut le dire, avec elle. Hein.
J'ai pas trouvé de référence à Sex and the City, ou alors peut-être j'ai loupé les petites vannes qui auraient pu être faites, mais ça m'a pas frappé en tout cas. Ce qu'on retrouve également, c'est la partie chantée avec une nouvelle version de I Put a Spell on You, et puis donc ce casting qu'on retrouve toujours avec plaisir, Bette Midler, Jessica Parker et Katina Jimmy, qui sont malgré les 30 ans d'à peu près d'écart entre les deux opus, toujours à fond et a priori très heureuses de retrouver ce rôle de sorcière qui les a fait connaître un peu à l'époque, entre guillemets. Puis,
c'est la plateforme Disney qui paye en plus,
bien
hein,
sûr,
c'est
donc ouais, c'est pas très... mal payé, quoi. On va pas cracher dans la soupe. Ce qui change dans cette suite, c'est l'image d'abord des personnages de sorcières que j'ai trouvé donc plus nuancés. Elles sont toujours moches, elles sont toujours bêtes, mais elles sont quand même dotées d'un passé familial douloureux et d'un amour soral très puissant. On découvre en fait les trois sœurs au-delà des sorcières, des jeunes filles qui ont dû se débrouiller toutes seules face à l'acharnement de l'Église et du patriarcat qui allait avec, pour conserver leur liberté et leur sécurité. Les trois sœurs, dès le départ, elles ne peuvent compter que sur elles pour survivre, et il leur faudra traverser les siècles pour comprendre que ce qu'il y a de plus important au monde, finalement, c'est ce lien qui les unit, un lien qui est plus fort que la magie et plus fort que la mort. J'ai aussi apprécié que la magie ne soit plus connotée comme 100% démoniaque, parce que dans le premier, c'est vraiment « Ah mon Dieu, c'est Satan, c'est le démon, c'est affreux, etc. » Ici, c'est quelque chose pareil, de plus nuancé. On découvre dans le film que en dehors des sœurs, il y a une des trois adolescentes qui a un pouvoir magique. On connaît pas encore l'origine. A priori, il y aura un troisième volume qui serait dans les tuyaux, donc on pourra peut-être finir par apprendre pourquoi. Toujours est-il que ce pouvoir n'est pas immédiatement relégué à quelque chose de mauvais. Il a plutôt des vertus protectrices et il est sublimé surtout par le lien qui unit les trois amies. Ensemble, on est plus fortes. Ça pourrait clairement être la morale de cette histoire. Et puis enfin, le jeu des actrices et des acteurs est tout de même bien moins lourd que dans le premier volet de la série, hein, même si on reste sur un film qui ressemble à un téléfilm ou à un direct ou VOD, c'est d'ailleurs le cas, il n'est pas sorti au cinéma, il était directement sur la plateforme Disney. Et donc revoir les trois actrices reprendre leur rôle avec la même énergie du Too Much, ça a quelque chose de mignon, sans pour autant être trop ridicule non plus, parce que ça aurait pu être gênant. Je pense parfois de se dire, oh, les gars, ça fait 30 ans, quoi. Voilà. Là, je trouvais que ça allait. Peut-être d'autres personnes diront que c'est pas le cas, mais bon, voilà. Et puis, petit plaisir personnel, le révérend père de Cassie Task est joué par Tony Hale. Je sais pas si ça vous parle. C'est Buster Bluth dans la série Arrested Development. Je sais pas si vous avez regardé cette série qui est très, très drôle, qui était du début des années 2000. Et ce personnage de Buster est un abruti fini. Et de le voir jouer là, ça, voilà, moi, ça me fait plaisir de le voir dans un autre rôle, enfin, voilà. Et puis, on souligne aussi qu'à la réalisation, nous avons Jane Fletcher, qui, elle, a fait ses armes dans la comédie romantique. On lui doit Sexy Dance, 27 robes ou La Proposition, mais on lui doit surtout le sublime Dumplin. Et c'est ce qui a donné aussi, je pense, à ce Hocus Pocus, un côté moins full Disney que j'ai un petit peu plus apprécié que pour le premier. Voilà, je vous redonne les références. Le 1 est sorti en 93 et il a été réalisé par Kenny Ortega. Le 2 est sorti en 2022 et réalisé par Jane Fletcher. Et les deux sont disponibles sur Disney+.
Et tranche d'âge à peu près ?
Oh, tranche d'âge, je dirais à partir de 6 ans.
6 ans ?
Ouais, 6 ans, okay. Parce que même s'il y a un peu des monstres qui peuvent... Un zombie qui pourrait faire un peu peur... On voit quand même que ça reste... C'est bon enfant, ça reste Disney, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de... C'est, ça ne fout pas la trouille. Le but du jeu n'est pas de foutre la trouille.
Et donc, c'est un film qui a enregistré les changements,
perception... Pour moi, il y a une évolution dans l'image de la sorcière entre les deux premiers volets. Je pense que c'est voulu, que ça a été fait en ayant conscience de l'air du temps et du côté marketing, en fait, hein, de la sorcière... aujourd'hui en fait, et que c'est ils se sont dit qu'ils pouvaient peut-être pas non plus trop les détruire.
Oui, et puis la part de féminisme,
voilà.
Une sorcière par définition est une femme, et donc voilà. À ce titre on peut pas.
Je pense qu'ils ont volontairement fait ça.
Ouais, parfait. Est-ce que vous avez choisi un morceau ?
J'ai évidemment choisi un morceau. J'ai choisi évidemment I Put a Spell on You, la version de Hocus Pocus, mais qui est interprétée par une artiste qui s'appelle Ashley Serena et qui fait des covers un petit peu spooky des chansons de film, donc je vous laisse apprécier.
Glorious morning makes me sick. Vous venez d'écouter l'Instant X, la chronique qui parle sorcellerie, féminisme et pop culture. Retrouvez-la en direct sur Radio Balistique, 103 FM dans la région de Châteauroux, dans le Balistique Café du mercredi une fois par mois et à tout moment sur Spotify, Google Podcast ou dans votre appli préférée. Merci de votre écoute et à la prochaine.